bienvenue à Longtemps j'ai bouquiné de bonheur, animé par Joël Cos, Pierre-Paul Durastanti et Dominique Gauthier. Au programme ce soir, de la fiction, comme souvent, de la fiction avec des romans qui abordent les rives du fantastique, de l'occultisme aussi, du mystère, et puis du roman qui est adapté en bande dessinée aussi, là on est dans la science-fiction. Et puis l'anachronique, et je devrais dire spécialement aujourd'hui la narchronique de Joël Cos, puisqu'il parlera de Prévert. Mais on commence d'abord avec la fiction. Et le roman de Olga Tokarczuk, Sur les ossements des morts.
À tes souhaits.
Tokarczuk, je l'ai bien descendu quand même. C'est publié chez Libretto. Alors Olga Tokarczuk, vous ne l'avez pas oublié, elle a reçu en 2012 le prix Nobel de littérature. Elle a publié donc Sur les ossements des morts. Le titre, il vient de William Blake, d'ailleurs, mais j'en dirai plus tout à l'heure. Ce roman, il a été publié d'abord, il est sorti en 2010, il a été publié d'abord chez Noir sur Blanc, éditeur suisse, et qui est dirigé, c'est pas anodin, par une philanthrope polonaise. Olga Tokarczuk, elle est née en Pologne, à la frontière avec l'Allemagne. Elle a grandi dans une petite ville. Mais d'abord un avertissement avant de lire ce livre. Si vous êtes chasseur, si la photo de chasseur rayonnant avec les cadavres des daims, des sangliers, des lièvres bien rangés à leurs pieds réjouit votre cœur, alors passez votre chemin. Ce roman n'est pas pour vous du tout.
Par contre, si on est végan, ça va.
Oui, oui. Des mauvaises langues, d'ailleurs, ont dit que ce roman était un roman végan. Bon, je trouve ça méchant parce que c'est quand même une œuvre incroyable. Alors, la narratrice de Sur les ossements des morts, elle est retraitée. Elle était ingénieure des ponts et chaussées. Elle vit seule, en marge du monde, à la frontière de la Tchéquie. Elle est plus particulièrement seule l'hiver. Les autres habitants de ce petit village sont partis, sont descendus à la ville. Ils lui ont confié la surveillance de leur maison. Tous les vendredis soirs, elle traduit avec un copain qui s'appelle Dizio, qui est informaticien pour la police, elle traduit William Blake. Et de temps en temps, ils vont en Tchéquie, c'est pas mal pour un vendredi soir sous la neige. Et de temps en temps, ils partent en Tchéquie acheter les ouvrages de Blake. Blake, bon, on s'en souvient, c'est un peintre, graveur, un poète du 18e, c'est un peintre symboliste.
Mystique.
Mystique, oui, j'allais, un poète du mysticisme.
Grosse symbologie religieuse.
Oui, absolument. Imprégné de mythologie aussi, quand même. Il a des visions d'un personnage extravagant.
C'est quelqu'un qui n'a bu que de l'eau et fumé que du tabac.
C'est tout ?
C'est bien connu.
Ah, c'est bien connu, d'accord. Mm. Et donc, je vous disais tout à l'heure que le titre du roman sortait d'une phrase de Blake qui dit « Conduis ta charrue par-dessus les ossements des morts ». Donc, notre comment elle s'appelle ? Janina. Janina, un matin, elle retrouve un de ses voisins mort. Ce voisin, il s'appelle Grand Pied. Elle l'a baptisé Grand Pied parce qu'elle donne des surnoms à tout le monde, aux animaux et aux personnes aussi. Donc, il est mort. Il s'est étranglé avec un os de biche. Laquelle biche il l'avait tué. Et la tête de laquelle biche trône sur un meuble dans la cuisine.
Donc, revanche de la nature.
Voilà.
Revanche de sa proie.
Et c'est le début d'une série de meurtres mystérieux, des chasseurs, toujours. Toujours des chasseurs. Et avec, autour du cadavre, des traces de pas d'animaux aussi. Janina, elle est végétarienne, comme je disais, le roman aussi. Elle est persuadée qu'il s'agit d'une vengeance d'animaux. Elle en parle, elle passe pour une folle. Et le lecteur est très vite dans une atmosphère étrange, presque fantastique. La nature est puissante, elle est mystérieuse, elle est porteuse d'un message très, très pessimiste. Alors, une petite lecture que je vais essayer de faire lentement, puisque je me suis laissé dire que je lisais trop vite. Alors là, je vais essayer d'aller lentement.
C'est pas nous. Tu as dit quelque chose, toi, Joël.
Allez, les innocents.
Les auditeurs.
Oui, c'est ça. Dans quel monde vivons-nous? Un monde où un corps est transformé en chaussures, boulettes de viande, saucisses, descentes de lit, et dont les os servent à faire du bouillon. Confectionner des chaussures, des canapés, des sacs avec un ventre, s'envelopper d'un pelage pour se réchauffer, manger un corps, le découper en morceaux, puis le faire frire dans de l'huile. Est-ce possible que ces monstruosités aient vraiment lieu? Cette tuerie gigantesque, organisée, cruelle et impassible, mécanique, sans aucun remords, sans la moindre réflexion. Car la réflexion, on la réserve plutôt à des philosophies, à des théologies inventées de toutes pièces. Quel est ce monde où la tuerie et la souffrance sont érigées en normes? avons-nous perdu la tête ? Voilà le genre de discours que Janina fait à ses co-religionnaires, si vous voulez. Donc effectivement, ça passe pas toujours très bien. Elle est aussi passionnée d'astrologie. Pour elle, je crois que l'énergie astrale nous domine, elle mène nos vies. Et elle décrypte les meurtres, d'ailleurs, à la lumière de l'astrologie. Alors, il y a des humains qui trouvent grâce à ses yeux. Il y a déjà Dasio, donc son copain, l'informaticien. Et puis, il y a Bonne Nouvelle. Encore un surnom. Bonne Nouvelle, c'est un personnage, un délicieux personnage féminin dont je vais vous parler. Lorsqu'on regarde certaines personnes, notre gorge se noue et nos yeux se voilent de larmes d'émotion. Ces personnes-là donnent l'impression d'avoir su préserver en elles le souvenir de notre ancienne innocence, comme si elles relevaient d'un égarement de la nature et qu'elles avaient, dans une certaine mesure, échappé à la chute. Peut-être sont-elles des messagers, à l'instar de ces serviteurs qui, retrouvant leur prince égaré, incapable de se rappeler qui il est, lui montrent une robe d'apparat qu'il portait dans son pays et lui font ainsi comprendre qu'il est temps de reprendre le chemin de la maison. Elle aussi, Bonne Nouvelle, souffrait d'une maladie très rare et très étrange. Elle n'avait pas de cheveux, pas de sourcils, ni de cils, n'en avait jamais eu. Elle se dessinait de jolis sourcils au crayon et traçait sur ses paupières des petits traits pour les cils. L'illusion était parfaite. Voilà Bonne Nouvelle qui a donc un magasin de vêtements d'occasion et qui réchauffe le cœur de Janina, qui l'accueille, qui lui fait de la tisane et qui va prendre qui la protégera, Pierre-Paul.
Alors, deux remarques.
Oui.
Un, ça s'appelle de l'allocipédie. Il se trouve que je le sais.
Très bien. Maladie. Ah, c'est ça. Oui, d'accord. Elle dit que c'est une maladie mystérieuse.
Non, non. Mmh. Et deux, par contre, oui. Et c'est une maladie génétique. Et deux, c'est curieux parce que s'il y a une référence à nouveau à Blake, elle dit les gens qui n'ont pas connu la chute. Mmh, et oui. Alors que Blake a justement beaucoup parlé de Lucifer, ange du matin, qui est le symbole de la chute au sens chrétien du terme, biblique.
Et chaque chapitre a en exergue une phrase de Blake.
D'accord.
Un cheval qu'on fouette en chemin réclame au ciel du sang humain. Voilà.
Oui, Blake, il y a un tableau de Blake qui est magnifique sur la chute, mais là c'est plutôt sur l'ascension, puisqu'il représente une lune tout à fait en haut. Du dessin, et une échelle immense qui part de la Terre avec un personnage qui monte. Ouais. C'est l'utopie par définition, et quand il arrive à la Lune, il ne peut que tomber.
Alors, vous ai-je dit que bon, les meurtres vont s'enchaîner, toujours des meurtres de chasseurs, avec des traces de pas autour, des choses très bizarres. Il y en a un qui est trouvé, il est couvert d'insectes. Après, on comprend qu'il y a une histoire de phéromones.
Donc c'est curieux, parce que ça rappelle une série... assez récente, Hannibal, qui était une mise en une espèce de préquel, comme on dit, au Seigneur, aux sciences des agneaux, et où le personnage justement met très très le personnage qui est un serial killer met très souvent en scène des meurtres comme s'ils avaient été commis avec le concours de la nature. Par exemple, un des cadavres est retrouvé avec des bois de serre, des choses comme ça. Et par ailleurs, il est cannibale, donc en fait, il mange ses proies. Humaine. Donc c'est curieux parce qu'on est un peu dans la même...
Oui.
Et un tableau de Blake joue aussi un rôle important. C'est marrant parce qu'on est un peu dans la même...
Oui, il y a des passerelles. Il y a des passerelles extrêmement
c'est
nombreuses.
Curieux.
C'est un livre extrêmement riche avec des images évocatrices. Olga Tokarczuk, elle dit « Je traite l'écriture comme une manière de ressouder le monde ». Et elle est très sensible à la détresse, à la souffrance. Et nous devons aujourd'hui lui fournir un véritable effort pour redonner du sens au monde. C'est un livre aussi plein d'anxiété. Le personnage de Janina, elle protège sans faillir son indépendance. Elle vieillit et elle dit « Jamais plus je ne sentirai les saveurs d'antan ». Il y a quelques lignes très drôles aussi sur, par exemple, les véhicules tout-terrain. Vous imaginez un peu ce qu'elle peut en dire. Sur l'éducation des enfants aussi, qu'on emmène toujours dans les manifestations. C'est-à-dire qu'une manifestation, pour la valider, on fait venir des enfants des écoles. C'est marrant ça nous fait penser à des choses, ça. Il y a aussi, et c'est ce qu'elle dit sur la Pologne, et aussi ce qu'elle pense de la Pologne et du refus de la Pologne de se confronter à son passé. Voilà, c'est un livre vraiment ample. Le personnage nous séduit, nous fascine. Il est complexe, il est parfaitement maîtrisé. Pour moi, Janina, c'est une sorcière moderne, féministe, libre, résistante et amorale. Je ne vais pas dévoiler la fin du livre.
D'accord.
Mais quoi qu'elle fasse, elle protège son indépendance, quoi qu'elle fasse. Il s'agit donc du roman de Olga Tokarczuk, Sur les ossements de mort, des morts, qui est publié chez Libretto et qui coûte 9,70 € dans les bonnes librairies. Voilà venu le moment de l'anachronique de Joël Kos. Aujourd'hui, de la poésie au sens le plus... Je vais dire que des banalités, là. Au sens le plus ample, le plus humain, le plus proche, le plus fou, le plus tendre. Ton anachronique sera consacrée à Jacques Prévert en 2 épisodes. Ce soir, le 1er épisode.
Oui, je ne dirais pas anachronique, parce que Prévert, ce n'est pas un anarchiste. Prévert, c'est un libertaire. Ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire il va gagner toute sa vie. Il va protéger sa liberté. Et 2 exemples avant de commencer. Le premier, c'est quand il était très, très proche du Parti communiste et qu'on lui a demandé d'adhérer. Il dit, pourquoi adhérer au Parti communiste? Ils vont me mettre dans une cellule. Le deuxième exemple, c'est par rapport au surréalisme. C'est lui qui a inventé le jeu Kadavreski, qui l'a baptisé, Kadavreski. Donc, il était proche des surréalistes. Il a séduit Breton par sa tchatche, par sa parole. Quand on lui a demandé de rejoindre le groupe surréaliste, c'est son anticléricalisme qui l'a emporté. Il dit non, je veux pas d'aller dans un lieu où il y a un pape. Voilà. Donc ça, c'est tout Prévert, c'est-à-dire garder sa liberté depuis le départ. Donc oui, comme tu le disais, il y aura certainement 2 parties parce qu'il a une vie tellement ample qui s'étale sur 77 ans et qui traverse le Front populaire, l'occupation et la 68 aussi, 1968, pour laquelle il a écrit. Donc, je vais commencer par parler de lui et surtout ce qu'il a révélé non seulement à la France mais au monde, c'est-à-dire son côté cinéma et son côté scénariste. Il a fait des scénarios dont on parle encore et qui sont toujours d'actualité.
Ah, Quai des Brumes, Hôtel du Nord, oui.
Voilà.
Les enfants du paradis.
Voilà. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup réviser. Ça vient tout seul. Donc, ça, c'est toute la première partie de sa vie. Alors, il faut savoir que Jacques Prévert est né en 1900. Il est né avec le siècle. Il est né à Neuilly. Une famille relativement pauvre. Hein. Bon, son père avait du travail.
Oui, c'était l'époque où Neuilly était encore une ville où il y avait des gens normaux.
Oui. Son père avait du travail et il travaillait dans les lettres, il faisait des commentaires de films.
Il se prenait pour un homme de lettres.
Oui, peut-être qu'il s'y prenait, mais enfin bon, ça lui permettait quand même de gagner sa vie, puisqu'il gagnait sa vie en écrivant. Et puis il a perdu son emploi.
Il a travaillé pour des assurances.
Ah ben ça hein? c'est un petit peu plus tard. Ouais. Et il a perdu cet emploi et il s'est retrouvé donc à la rue. Ils ont immigré toute la bande, c'est-à-dire il y avait il y avait le père qu'il a appelé le père Picon, hein, parce qu'il avait vraiment il avait un petit côté un petit penchant pour la bouteille. Et il y avait sa maman Suzanne. Et puis il y avait un premier Jean Prévert qui est mort assez vite de
la frère aîné.
Ouais, frère aîné qui est mort de la typhoïde. Et puis il y avait un frère cadet Pierre Prévert.
Avec qui il a beaucoup travaillé d'ailleurs. Ah, sur les films.
Surtout, c'est le compagnon de sa vie, Pierre, hein, et inversement, Jacques le compagnon de Pierre. Et ils sont partis à Toulon. Il est resté quelque temps à Toulon. Alors là, c'est là aussi, ils ont tiré le diable par la queue, toute la famille. Ils ont fait que des petits boulots. Et finalement, il est retourné à Paris et il a été embauché par, comment on peut dire, une espèce de secours populaire, mais religieux.
Le père ?
Le père, oui. Alors vas-y, tu as la précision, même non, je connais le nom.
Non, le père, il a pour travail, pour quelque chose qui pourrait ressembler au secours populaire, mais beaucoup plus paternaliste, je pense, puisque c'est un catho qui a lancé ça.
Ben, ça s'appelle le secours catholique.
Non, mais d'accord, mais le secours populaire, si tu veux, pardon.
Oui.
Il s'agit de sélectionner les pauvres.
Ah, ça oui, va, voilà. Lesquels on peut sauver. Donc, il va les voir, le père va les voir. Et Prévert, comme il aime pas trop l'école, hein, il fait souvent l'école buissonnière avec l'assentiment du père, il accompagne son père pour aller visiter les pauvres. Et là, il va accumuler une connaissance de la misère. Mmh. Et ça va le marquer toute sa vie. Et il aura toujours de cesse de pas de sauver, mais de s'intéresser à eux et dans la mesure du possible d'intervenir. Pour ça, on va la retrouver dans toutes ses actions.
Il y a une anecdote charmante. Il est dans le Midi, il rencontre un homme qui fait la manche, qui a posé son chapeau devant lui, un aveugle, et cet aveugle se plaint. Il a mis sur le chapeau aveugle, pas de pension, quelque chose comme
aveugle
ça.
Sans pension, oui.
Et l'aveugle se plaint de rien faire. Alors Prévert marque un truc sur son chapeau. Et puis il s'en va, et quand il revient, un ou deux jours après, l'aveugle lui dit « Fantastique, je fais 3 chapeaux par jour ». Et il a retourné le chapeau, et sur le chapeau, il y a marqué « Le printemps arrive et je ne le verrai pas ». C'est magnifique.
Ouais. Ouais. C'est l'intervention de la poésie dans le quotidien. Et ça, là aussi, ça a été une activité qui était collée au corps. Donc il retourne à Paris en famille. Il va au collège, à faire l'école, quoi, tout simplement, et il va y aller jusqu'au certificat d'études. Hein, là, il va passer son certificat d'études, et puis point final, il veut pas aller plus loin. Donc, sauf qu'il a rien à faire, quoi. Hein, et il va faire quelques petits larcins par-ci par-là. Il va passer au travers. Hein, et il se demandera d'ailleurs quand il va passer son conseil de révision comment ça se fait que son cahier judiciaire est encore vierge, dès qu'il a eu beaucoup de chance. Donc, il fait quelques petits larcins, il fait quelques petits boulots, il travaille dans genre de la Samaritaine, des petites entreprises comme ça, où il se fait virer régulièrement, il y reste pas beaucoup, parce qu'il y a toujours des chefs, donc comme je dis, son côté libertaire et voulant la liberté totale de ne pas être commandé, et il se fait virer jusqu'à ce que finalement il soit mobilisé. Alors ça c'est en 1920, il est mobilisé, envoyé alors dans un corps d'armée dont j'ai oublié le numéro et le nom, et c'est là qu'il va rencontrer un premier ami, qui va être vraiment son grand ami, ils vont communiquer, c'est Yves Tanguy. Yves Tanguy qu'on peut toujours connaître quand on va à Beaubourg, il y a toujours quelques...
Le peintre.
Voilà, il y a quelques tableaux de Yves Tanguy. Donc, il sympathise, il ne se quitte pas, il discute. Alors Prévert, il est reconnaissable parce qu'il n'arrête pas de parler. Il n'arrête pas, il est toujours avec tout le monde, il a toujours quelque chose à dire. Et c'est intéressant parce que les gens l'écoutent et ils posent des questions. Donc avec Yves Tanguy, ça se passe très bien, mais il est envoyé ailleurs, son temps d'armée n'est pas encore fini, mais il accepte de partir à Istanbul, en Constantinople. Et là, va rencontrer l'amitié de sa vie. C'est à Constantinople, dans le même régiment, il y a Marcel Duhamel. Alors là, ça va être la grande entente avec Marcel Duhamel. Ils vont plus se quitter jusqu'à la fin.
Marcel Duhamel, le fondateur...
Le créateur de la série noire.
De la série noire.
Le créateur d'une collection chez Gallimard, qui n'avait pas de nom, qui était une collection de policiers.
Oui, qui a été baptisée...
Série noire par Jacques Prévert.
Marcel Duhamel, qui est quand même un très bon copain, bien précieux, parce que il a un peu d'argent, il a un hôtel, je crois qu'il touche un peu les subsides d'un hôtel, et ça lui permet de nourrir les copains à la rue, de les héberger, parce qu'il n'héberge pas que Prévert, je crois.
Alors voilà, donc cette amitié va se réaliser précisément dans le quotidien, parce que Prévert, bah, il va rentrer à Paris, mais il n'a toujours pas de boulot, il n'a pas d'argent, il ne sait pas où loger, il va reloger un peu chez la parentèle, chez les parents, papa et maman et le petit frère, c'est-à-dire le Pierre Prévert est obligé de coucher dans un coin, on tire le lit tous les soirs pour qu'il puisse, pour que Jacques puisse dormir. Et c'est Marcel Duhamel qui effectivement est d'une famille qui a un certain nombre d'hôtels, et son oncle, pour lui permettre de vivre, lui a donné la gestion d'un hôtel. Donc il roule pas sur l'or, mais il a suffisamment d'argent, et en particulier il peut louer une maison rue du Château. Cette maison rue du Château va devenir célèbre parce que ça va être la maison des surréalistes. Elle va rester la maison des surréalistes pendant 20 ans. Mais les trois.
Parce que le carnet d'adresse de Marcel Duhamel, il faut dire, c'est quelque chose quand même. Il part en vacances avec Picasso, avec Dali.
Ça va être pour la suite. Et d'ailleurs, c'est une grande opportunité pour Jacques Prévert, voilà, aussi, au tout début. Hein. Oui. Alors là, il a 20 ans. Hein, donc on est dans. Alors, ils habitent tous les trois. Il y a Tanguy, puisqu'il était aussi dans il avait un peu les mêmes problèmes. Tanguy, il avait envie de peindre, mais il n'avait pas d'argent pour trouver sa peinture. Et donc, Duhamel va héberger Tanguy et sa compagne. Jacques Prévert et sa compagne, qui était une amie d'enfance aussi, et Marcel Duhamel va habiter avec eux et avec Gazelle. Gazelle, c'est aussi une, bon, là, les histoires de femmes et de relations.
L'histoire d'amour.
Oui. Donc, ça, bon, là, je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc, ils vont vivre là, et comme ils ont une grande liberté, ils vont aller partout. Ils vont assister aux expositions des surréalistes. Ils vont assister surtout aussi aux expositions qui sont sabotées par les surréalistes. Et c'est là le premier écrit de Prévert, parce qu'il va griffonner, il va faire une tentative de description d'un dîner de tête à Paris, France. Et là, bon, c'est copieusement, et ça continue comme ça, il va décrire tous les gens qui viennent assister à un vernissage pour boire un coup et puis pour se faire voir, quoi. Et donc, ça va être son poème.
Est-ce qu'on en reste là pour aujourd'hui? C'est la fin du premier épisode, ou tu veux...
On peut arrêter, veux, oui, si on a plus de temps. Hein? Non, parce que là, on est à Paris, il démarre. Quoi.
Alors, finalement, on va quitter Prévert alors que une autre vie commence pour lui.
Alors là, il y en a encore deux autres, oui. Là,
deux autres vies.
Oui, au moins, oui.
Puisque c'est pas un chat, mais presque.
Parce que là, il n'a pas encore fait son premier scénario, qui va arriver avec son frère. Ils vont tourner un premier film. Et surtout, ce que je voudrais dire avant d'arrêter maintenant, c'est que, donc, comme vous avez compris, Prévert, après son certificat d'études, il n'a plus rien fait. Mais grâce à Marcel Duhamel, il va aller voir la libraire dont on a parlé. C'est Adrienne Monnier qui tient cette librairie, Les Amis du Livre. Et c'est Adrienne Monnier qui va le guider dans ses lectures. Et c'est là qu'il va découvrir Isidore Ducasse, Les Chants de Maldoror. C'est là qu'il va découvrir Edgar Poe. Et c'est là qu'il va commencer à lire, puisque Adrienne Monnier, comme je l'avais dit la dernière fois, elle prête les livres. Il suffit de les emporter. Et on peut les ramener, etc. Donc, la librairie prête. Et puis, il va rencontrer Valérie, il va rencontrer Gide, il va rencontrer Aragon, il va rencontrer Breton. Ils sont tous là. Voilà. Donc, c'est à partir de son accumulation de littérature qu'il va passer à un autre niveau et qui va la retransmettre par l'écriture.
Alors, quelle est la musique qui nous accompagne?
Un petit hommage à Prévert, le premier hommage qui a été fait par Serge Gainsbourg, la chanson de Prévert, par Cora Vauquer.
Thank you. je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée. Je crois qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais leur chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes, s'efface de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Mes amours mortes en auront fini de mourir.
Place maintenant à la science-fiction et à la bande dessinée, Pierre-Paul.
Oui, alors on va s'attaquer à une espèce de monument, parce qu'on va parler d'une part de Howard Phillips Lovecraft, et d'un de ses très rares textes longs, disons romans, même si ce n'est pas exactement un roman, qui s'appelle « Les montagnes hallucinées », qui a été publié il y a longtemps dans un des premiers recueils de Lovecraft en France aux éditions de Noël. Mais il se trouve qu'est sorti, il se trouve qu'un mangaka, un dessinateur de manga japonais donc, qui s'appelle Gutanabe, a décidé depuis quelques années d'adapter les grands textes de Lovecraft en manga. Et le premier qui est sorti, c'est donc en français « Les montagnes hallucinées », qui est un livre donc qui se passe pour l'essentiel au pôle sud. Alors Lovecraft écrit ce texte au début des années 30. En 1931, il paraîtra quelques années plus tard dans une revue de science-fiction, Astounding. Et c'est à la fois un hommage à Edgar Allan Poe et spécifiquement aux aventures de Arthur Gordon Pym, un roman inachevé d'Edgar Allan Poe. Et d'autre part, ça s'inscrit dans une espèce de mythologie que Lovecraft a mis en place de manière très ludique d'ailleurs, bien qu'elle ait été prise un peu au sérieux par la suite dans son œuvre, et qu'on a appelé par la suite le mythe de Cthulhu. Et donc cette mythologie présuppose que depuis des millions et des millions d'années, la Terre a été visitée par plusieurs vagues d'envahisseurs extraterrestres, mais tellement puissants, tellement avancés qu'on pourrait les prendre pour des dieux. Et on a là une expédition qui, quelques années à peine après la conquête des pôles et du pôle sud, part pour, à l'époque où c'est encore un continent très largement inexploré, qui par exemple n'a pas encore été survolé en avion, qui part pour faire des recherches géologiques, etc. Et qui tombe par hasard à la suite d'un espèce d'immense blizzard sur un camp avancé ne donne plus de nouvelles. Donc les gens de l'expédition vont voir ce qui s'est passé, croyant que simplement leur antenne radio a été abattue par le blizzard. Non, en fait, tout le monde a été massacré. Il y a une espèce de congélateur géant, en quelque sorte, avec les cadavres mutilés des membres de l'expédition, des membres de l'avant-garde, sauf qu'il en manque un. Sauf qu'il y a des traces de créatures gigantesques et des cadavres de créatures gigantesques dont on se rend compte qu'ils ont été conservés par la glace depuis des temps immémoriaux. Et donc, il est décidé de pousser plus loin vers le pôle pour essayer de retrouver l'unique survivant, croit-on, et de voir pourquoi il est parti. Et en fait, petit à petit, on se rend compte que... Alors, ce qui est intéressant, c'est que bien que le lieu soit inhospitalier au possible, le pôle sud, dans les années 30, ces gens sont arrivés avec un bateau, un vapeur, ils avaient avec eux deux petits avions, donc en fait, ils ne sont pas complètement à la merci de tout. Et ils vont essayer de... Ils vont partir sur la piste de leur compatriote disparu. Et en fait, ce faisant, ils vont tomber sur une espèce de gigantesque cité, des ruines, mais gigantesque, de la taille de Paris, dans une espèce de vallée reculée, et se rendre compte que finalement, une des célèbres phrases de Lovecraft, c'est sur la survie, n'est jamais mort ce qui dort, et effectivement, ce qu'il prenait pour des créatures mortes était en fait simplement endormi, pour certaines. Et donc, petit à petit, on a une espèce de tension qui monte comme ça entre les deux explorateurs qui finalement partent le plus loin, qui sont rationnels, professeurs d'université, il y a un géologue, il y a un archéologue, etc. Et qui sont confrontés à des visions que l'être humain ne devrait pas voir, parce que ces créatures sont... Enfin, c'est même pas qu'elles sont malveillantes, elles sont tellement différentes de nous que leur simple présence est horrifique. Et elles ont une espèce de fascination qu'elles peuvent exercer. Ils ne voient jamais véritablement les créatures. Ce qu'ils voient, ce sont les fresques et les sculptures qu'elles ont laissées et qui ont été conservées. Et c'est le simple fait de voir ça, de voir l'histoire de cette race qui est arrivée sur Terre avant même qu'il y ait des hommes, cette histoire-là les déstabilise.
Et ça génère de l'angoisse.
Ah, ça génère de l'angoisse, ça génère de l'horreur, ça génère de la fascination, parce qu'évidemment, ces gens sont des scientifiques. Alors, pour eux, c'est une découverte évidemment majeure. Il y a eu une civilisation avant l'homme. Alors, pareil, on est dans les années 30, on est encore à une époque où les gens peuvent être... Bon, ça ne veut pas dire que les gens ne le sont pas encore maintenant, il n'y a qu'à regarder un peu sur YouTube. Mais il y a effectivement cette fascination pour les continents éventuels qui auraient pu exister, Mu, l'Atlantide, enfin, y a cette espèce de pseudo-science existe depuis très longtemps.
Il existait, mais déjà, on avait découvert la carte de Pyrrhéis qui parle des cartes des anciens rois des mers. Oui. Et ces anciens rois des mers, dont le centre était basé à Thèbes, en Égypte, avaient colonisé déjà l'Antarctique. Puisque l'Antarctique est toujours d'ailleurs un continent.
Oui. L'Antarctique est un continent, absolument. Voilà. C'est le sixième continent.
Donc ça, pour voir dans le fantastique, évidemment, ça me ramène à ça. Oui. Mais quand tu parles de la façon de percevoir les personnages et le passé ou l'avenir où on ne sait pas trop c'est qu'on en est. Là, on rejoint la poésie, on rejoint le bateau ivre et il voit ce que l'homme a cru voir, quelquefois.
Il y a d'ailleurs effectivement des espèces d'échos, par exemple, d'autres grandes aventures maritimes. Il y a une espèce d'obsession qu'on croirait tout droit sortie de Moby Dick. Mais ce qui est très intéressant, c'est que on assimile souvent Lovecraft à un écrivain d'horreur, ce qui est vrai, parce qu'il est là pour faire peur. Mais on l'assimile souvent à un écrivain de fantastique. Or, il y a très peu de textes de Lovecraft qui relèvent vraiment du fantastique. Il n'y a pas de vampires, il n'y a pas de fantômes. Il y a la peur, mais la peur vient du fait que comme disait Pascal, le silence de ces espaces cosmiques m'effraie. Sauf que chez Lovecraft, en plus, les espaces cosmiques sont tous sauf silencieux. Ils sont hantés par des cris d'horreur. Et ils sont donc encore plus effrayants. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est l'espèce de dichotomie entre la rationalité pure de gens, des héros de Lovecraft, qui sont très très souvent des chercheurs, des universitaires, des bibliothécaires, etc. Là, c'est carrément toute une expédition scientifique pluridisciplinaire. Et des espèces de survivance du passé. Alors, si on veut donner une espèce d'équivalent plus moderne, le film Alien de Ridley Scott est un excellent exemple parce que c'est un film de science-fiction pur et dur. Il n'y a absolument rien de surnaturel qui se passe. Mais par contre, c'est un des films qui fout les jetons.
Absolument.
Voilà.
Donc, quel est l'apport du manga et du dessin?
Parce que alors là, ce qui est intéressant, tu l'avais lu. Voilà, moi je l'avais lu. Alors c'est un court roman qui doit faire, disons, 180 pages en poche. Là, on a une adaptation extrêmement soignée, longue. C'est deux tomes de plus de 350 pages chacun.
Donc ça fait 700 pages. À l'envers, pages. Comme un vrai manga.
C'est un vrai manga. Maintenant, les mangas, alors qu'au début, c'était pas le cas, on inversait les pages en français. Maintenant, voilà, on commence par ce qui, pour nous, est la fin. Et on feuillette à l'envers. Idem dans les cases, le sens de lecture des bulles est inversé. Alors, ce qui est intéressant, ce que tu remarquais tout à l'heure pendant la pause, c'est que le texte de Lovecraft, il y a quasiment pas de dialogue. Et là, par contre, effectivement, c'est une bande dessinée, donc il y a beaucoup de dialogues, c'est essentiellement dialogué. Il y a aussi beaucoup de ce qu'on appellerait une voix off au cinéma, pour commenter un peu l'action, etc. Et puis surtout, il y a un ensemble de magnifiques doubles pages qui sont superbes. On dirait du Durer, on dirait du...
Du William Blake.
On dirait du William Blake, là, c'est aussi très net et tout. Et c'est vraiment, si vous avez l'habitude de penser au manga comme à des trucs genre, je sais pas, Candy ou Maille à l'abeille, pour reprendre les... Oui, je vois que Lucas est en train de sauter au plafond. Non, mais pour ceux qui connaîtraient rien du tout, ça n'a vraiment aucun rapport. On est vraiment au niveau de la meilleure bande dessinée possible. C'est vraiment
dès la première,
c'est vraiment très beau.
Dès la première page, un écho au titre, c'est halluciné. C'est quoi
les montagnes hallucinées.
Les montagnes hallucinées. J'ai tout de suite pensé à Courbet, oui. Hein, puisque le personnage qui est dans la première page, oui. C'est il est halluciné.
Oui, regarde en fait, voilà. il voit arriver un blizzard.
Le tableau de Courbet qui est à Orsay et qui a des yeux exorbités, hein, magnifique.
Donc voilà, c'est une. Moi, je trouve que c'est une excellente adaptation. En plus, c'est là qui a extrêmement bien marché. En plus, l'objet est joli. Bon, moi, il se trouve que j'ai pris un petit coffret maintenant. L'objet est en relié simili-cuir. Ben, c'est vraiment joli. Il y en a un deuxième qui est sorti, toujours adapté par Gukutanabe, parce qu'il en a fait plusieurs au Japon. Et il y en a un troisième qui est annoncé pour dans 2 ou 3 mois. Donc ça s'appelle, sous le titre générique, Les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Alors il ne va pas adapter tout Lovecraft parce qu'il y a des dizaines de nouvelles. Mais apparemment, il a vraiment l'intention d'en faire plusieurs, qu'on va donc avoir, parce qu'en plus, ça, comme j'ai dit, ça a plutôt eu son petit succès. Si je me souviens bien, c'est sélectionné pour le Grand Prix d'Angoulême de cette année, cette adaptation-là, Les montagnes hallucinées. Donc voilà, pour se faire peur, mais en même temps, pour admirer un dessin extrêmement fouillé, avec, il y a des moments où on pense à Piranèse, parce qu'il y a des espèces d'architecture quasiment non euclidienne. Ça a dû demander mais des centaines d'heures de travail qui sont magnifiques, quoi. Et c'est vraiment, voilà, c'est un très très beau... C'est assez rare que je parle de bande dessinée, surtout de manga, parce que moi, j'avoue, je n'y connais pas grand-chose. Mais là, j'avoue, ça m'a bluffé complètement. C'est un très beau texte. Et après, on peut éventuellement continuer avec Lovecraft, qui... l'œuvre intégrale est chez Bouquin, en 3 volumes, chez Robert Laffont. Il y a plusieurs éditions, parce que maintenant, Lovecraft est dans le domaine du public. Donc, tous les éditeurs français se sont empressés de s'engouffrer dans la brèche et de proposer chacun ses adaptations Lovecraft. Il y a même une série de traductions en cours au Seuil par François Bon, le romancier. Donc, il y a vraiment... C'est une œuvre très, très, très intéressante qui a eu une descendance absolument incroyable au cinéma, dans le jeu vidéo, dans le jeu de rôle... Et aussi maintenant dans la bande dessinée.
Oui, Lovecraft, c'est aussi pour moi Des bons et merveilles, qui est quand même un livre fantastique.
Un des bouquins qu'admirait Jacques Bergier.
Oui, pour rejoindre Prévert, puisque moi j'y suis encore dedans, je pense aux Visiteurs du soir, où on est, comme avec ta romancière polonaise, on est dans le fantastique, puisque là c'est le rapport avec le diable.
Hein,
c'est
avec le temps.
Jules Berry qui fait le diable. Oui. Et puis l'amour, puisque dans le fantastique, il y a forcément une histoire d'amour.
Et puis ce cœur qui continue de battre.
Et c'est la fin, le diable les fige.
Oui, les statufie,
mais le cœur continue de battre.
Le cœur continue de battre, parce que l'amour est le plus fort. Alors vous n'attendez pas trop à trouver un message aussi optimiste dans Lovecraft, qui était vraiment un chantre de l'horreur cosmique et de la solitude de l'homme face aux espaces cosmiques. Mais en tout cas, je vous conseille très très vivement Les montagnes hallucinées, que j'ai tout simplement acheté à ma librairie préférée, La Follavoine, pour faire un peu de pub. Et je vous en dirai des nouvelles. J'ai pitié, je vais pas vous imposer en entier Iron Maiden, Can I Play With Madness. Pourtant, j'aimerais bien, mais non, je vais pas le faire.
La Allez, prochaine à toi, Dominique. Fois, dans deux épisodes aussi.
Si tu veux.
Alors, je vous rappelle qu'on est sur CFM.
C'est vrai.
Que c'est longtemps j'ai bouquiné de bonheur.
C'est vrai.
Aussi, vous êtes toujours d'accord.
Absolument.
Alors maintenant, je vous parle d'un bouquin de Santiago Amigorena, le ghetto intérieur, publié chez Paul. C'est un livre de cette année. Je vais vous lire la première phrase, ça vous mettra déjà dans l'ambiance. Le 13 septembre 1940, à Buenos Aires, l'après-midi était pluvieuse et la guerre en Europe si loin qu'on pouvait se croire encore en temps de paix. Vicente Rosenberg a 38 ans. Il a fui la Pologne en 1928 pour des raisons complexes futiles. Fuir sa mère, sa famille juive... Besoin de grands espaces.
Ah,
aussi.
La mère juive.
La mère
oui,
juive,
on le comprend.
Bon. Ça l'a vraiment soulagé d'être loin d'elle. Alors que, au moment où le livre commence, il est torturé par le fait d'être tellement loin aussi. Il s'est marié. Sa vie est prospère, joyeuse. Elle est nourrie d'amour et d'amitié. Rosita, sa femme, est courageuse et aimante. Il a deux filles. Il a écrit un peu à sa mère. Et puis, plus de nouvelles. En revanche, de sombres nouvelles de la Pologne, des nouvelles par bribes, des nouvelles dont on n'est pas sûr qu'elles soient vraies. Il cherche des raisons pour comprendre et aussi pour ne pas comprendre. Et voilà, il commence donc une lente dégringolade, infiniment triste. Vicente s'enferme dans le silence, sous le regard désolé de sa femme, de ses amis. Il ne veut pas vivre dans la cruauté inutile de la mémoire et la honte d'avoir échappé à la Shoah. Et donc il construit son ghetto intérieur. C'est le 10e livre de Amigorena qui est publié chez Paul. Hein, Paul, c'est vraiment sa famille. Et dans un entretien, l'auteur dit qu'il a écrit parce qu'il n'a pas pu parler à son grand-père. Et Vicente Rosenberg est le grand-père d'Amigorena. C'est un roman bouleversant, impeccable, avec une écriture délicate, discrète, économe. Et par le moyen d'une fiction classique, il dit ne pas chercher la fidélité et l'exactitude dans son roman, mais en revanche, l'écho du passé dans le présent et le sens que ça prend. Et l'écrivain ajoute que le silence, le fait de ne pas avoir pu parler à son grand-père, c'est le silence qu'il a contraint à écrire. Il a hérité de ce silence. Vicente a choisi de se taire. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux filles de Vicente, qui sont donc des cousines de Amigorena, sont devenues psychanalystes.
De toute façon, il y a déjà une ironie dans le fait qu'un juif polonais aille se réfugier en Argentine, voilà. Sachant qu'à partir de 1945, s'il va y avoir une destination pour la plupart des nazis qui ont réussi à échapper à la justice des hommes, ça sera justement l'Argentine. Donc,
D'ailleurs, Amigorena va s'exiler au moment des événements d'Argentine. Lui, c'est un, il fait un autre exil. Hein.
Oui, en plus, exil, pareil.
Et c'est pour
pays,
lui,
pays habitué à la dictature.
Voilà,
là,
c'est un, pour lui, c'est un exil intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que Vicente ne se sent pas particulièrement juif tant que la vie est heureuse. Ce folklore, la religion, tout ça, ça l'intéresse pas beaucoup. Et en revanche, quand les nouvelles arrivent, quand il prend conscience qu'il a abandonné sa mère finalement, et là, il n'est plus que juif. Ça, il est enfermé dans... Donc il s'enferme dans la prison du silence et du jeu aussi. C'est un personnage poignant. Et sa femme, ses enfants tentent de le ramener, mais le silence aussi détruit les liens. Et Amigorina parle aussi beaucoup de la nécessité de l'oubli pour réconcilier la mémoire et faire le deuil. Et il est aussi revenu dans un entretien qu'il donne à la librairie Mola. Il revient aussi sur cette notion de devoir de mémoire qui lui plaît moyennement parce qu'il pense que vivre avec le passé, c'est pas ça. Il y a quelque chose de l'assimilation, de la fidélité, de l'amour, mais pas cette obligation-là.
Vaste débat, quand même.
Cette parfois complaisance.
Non, c'est le mot devoir, parce que la mémoire, on est obligé de la garder. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. La mémoire, on doit le passé, si tu en parles pas, si tu le connais pas, tu es ramené à le revivre.
Oui, ça.
Mais il ne faut pas l'oublier. Mais le devoir, c'est autre chose.
Ce contre quoi il s'élève, je pense, c'est la condamnation à ce souvenir. Ça, il veut pas ça.
À pas être condamné au souvenir, non, mais il faut faire attention parce que bon, remarque qu'il y a deux choses. Il y a la mémoire, hein, la mémoire, c'est les témoignages, et puis il y a l'histoire. Hein.
Je vous lis juste un petit bout. Vicente avait été un homme installé, 40 ans, marié, deux filles et un fils, des amis, un magasin qui marchait, une ville qui ne lui était plus étrangère. Il avait été un homme comme plein d'autres hommes. Heureux et malheureux, chanceux et malchanceux, vif, fatigué, présent, absent, souvent insouciant, parfois passionné, rarement indifférent. Il avait été un homme comme tant d'autres hommes, et soudain, sans que rien n'arrive là où il se trouvait, sans que rien ne change dans sa vie de tous les jours, tout avait changé. Il était devenu un fugitif, un traître, un lâche. Il était devenu celui qui n'était pas là où il aurait dû être, celui qui avait fui, celui qui vivait alors que les siens mouraient. Et à partir de ce moment-là, il a préféré vivre comme un fantôme, silencieux et solitaire.
Oui, c'est la prise de conscience et la réaction à la prise de conscience. Bon, il a une réaction de repli, de ghetto intérieur, par rapport au vrai ghetto qui se trouve à Varsovie, mais c'est une réaction personnelle. Mais c'est vrai, avant, c'est un homme.
Un très beau portrait,
même si moi, par exemple, j'ai tendance à dire, mais enfin, tu culpabilises alors que c'est pas ta faute, justement. Donc, mais c'est courant. Et c'est la culpabilité du survivant, c'est connu.
D'un coup, il prend conscience de ce qu'il y a là-bas.
Donc, un beau portrait d'homme.
Ouais, un beau portrait. Donc, c'est le roman de Santiago Amigorena, Le ghetto intérieur, paru chez Paul.
¿Recordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía coco ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. 25 abriles volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solo quedamos hermanos, yo y vos solo para recordar. ¿Te acordás las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón, que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor? ¶¶ te acordás, hermano? La rubia Mirella, que quité lo de Hansen al guapo Rivera. Casi me suicido una noche por ella, y hoy es una pobre mendiga harapienta. ¿Te acordás, hermano, lo lindo que era? Se formaban ruedas para verla bailar. Cuando por la calle la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solo quedamos, hermano. Yo y vos solo para recordar.
Alors,
il est très beau ce morceau.
C'est Adèle. Il est très beau ce morceau.
Oui, j'écoute Iron Maiden, mais je suis capable de dire que ce morceau est très beau.
Bon, je suis contente et rassurée. L'émission va s'achever. On va donc vous rappeler ce dont on vous a parlé. À toi l'honneur, Joël. Enfin, pas à toi l'honneur, tu ne prends pas la parole, mais je rappelle juste que tu as commencé une anarchronique chronique avec Prévert. C'est le premier épisode. D'autres épisodes à suivre.
Ah, parce que là, on est parti pour une trilogie là, ou une tétralogie.
Ensuite, j'ai parlé du roman du prix Nobel de littérature, Olga Tokarczuk. C'est Sur les ossements des morts, publié chez Libretto. Ensuite, Pierre-Paul.
Et bien, on a parlé d'un manga, donc Les montagnes hallucinées d'après Lovecraft de Gou Tanabe, chez Ki-Hoon. J'avais oublié de dire qui était l'éditeur.
Joël, lève le doigt.
Oui, pour une petite citation de Prévert toute simple. La bataille de Fontenoy commence. Soldat qui est tombé à Fontenoy, vous n'êtes pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Encore une histoire de mémoire. Et pour finir, j'ai parlé justement de Santiago Amigorena qui a publié Le ghetto intérieur chez Paul. Et voilà, on peut vous dire au revoir. Remercier Lucas Demael à la technique.
Remercier CFM qui accueille toujours cette émission avec
autant
plaisir.
De chaleur.
Et à vous souhaiter
ils ont été très bien de recevoir une autre fois.
Et heureuse année.
Oui, mais
on vous dit au revoir, à bientôt.